Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9. Vous écoutez La Voix Libre, une émission de l'association Picassoft, une association étudiante de l'UTC qui s'est donnée pour mission de sensibiliser et former les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique, qui héberge des services web respectueux de la vie privée et qui promeut une approche libre, éthique, inclusive et locale du numérique. Pour cette nouvelle émission, après un ou deux mois d'absence, eh bien une fois n'est pas coutume, nous avons un invité en studio et ça fait très plaisir. Je suis avec donc Stéphane et Olivier Lefebvre. Et puis Stéphane, je te passe la main pour présenter un petit peu l'émission d'aujourd'hui.
Bonjour Quentin, merci, merci à toi. Et donc bonjour Olivier Lefebvre.
Bonjour.
On reçoit Olivier aujourd'hui qui est l'auteur de « Lettres aux ingénieurs qui doutent ». Alors tout un programme pour une émission à l'UTC. Un essai que tu viens de publier chez l'éditeur L'Échappée. Donc on aura la chance d'échanger avec tooi après l'émission de radio. Je te propose pour démarrer, si tu es OK, de nous faire une petite présentation de qui tu es et puis de ton parcours récent peut-être en lien avec cette question-là.
OK, merci Stéphane de l'invitation à faire cette émission avec vous. Et donc en quelques mots de mon parcours, je suis ingénieur, alors pas de l'UTC, mais j'ai pris cette voie-là. Et sans doute pas comme les ingénieurs de la formation UTEC qui, si j'ai bien compris, choisissent vraiment le parcours qu'ils veulent choisir. Moi, au contraire, je suis un peu tombé dans l'ingénierie sans l'avoir choisi, en ayant pris un peu la voie la plus sélective, celle qui pouvait me laisser le plus de portes ouvertes, même si au début, il y avait un goût prononcé et sincère pour les sciences. Bon, à un moment, je me suis réveillé, j'étais en école d'ingénieur, sans avoir très bien compris comment s'était passé ce parcours-là. Et je ne l'ai pas forcément extrêmement bien vécu, c'est-à-dire que l'école d'ingénieur, ça ne correspondait pas, je ne m'en sentais pas très à l'aise dedans. Et bon, à un moment, il a fallu faire comme toutes les personnes qui faisaient autour de moi, hein, c'est-à-dire travailler pour essayer de gagner un petit peu d'argent, pour vivre. J'ai l'impression que c'était comme ça que ça fonctionnait. Et j'ai quand même cherché à repousser ce moment-là le plus longtemps possible. Donc j'ai fait une thèse en robotique, j'ai enchaîné avec un post-doc. Mais comme j'étais quand même pas du tout passionné par la robotique, même si j'ai pris du plaisir à faire cette thèse, je voyais ça comme un moment un petit peu ludique, mais pas plus. Bon, ayant repoussé au maximum, j'ai été travailler en entreprise. Et j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans ce domaine de la robotique à des fonctions de responsable R&D, de responsable d'équipe R&D, recherche et développement, sur des thématiques donc de robotique. Et la dernière entreprise pour laquelle je travaillais, EasyMile, conçoit des systèmes de navigation autonome, c'est-à-dire des véhicules qui peuvent transporter des personnes, des véhicules de transport collectif de personnes ou des véhicules de transport de marchandises. Et puis, à un moment, j'ai quitté. Alors, ça ne s'est pas fait brutalement. Il y a eu une progression. Ça a été un chemin très lent, finalement, chez moi, parce que j'ai quitté l'ingénierie quand j'avais 40 ans. Et il y a plusieurs facteurs à ça. L'un d'eux, c'est que personnellement, j'avais envie de faire autre chose que de l'ingénierie. J'avais envie de rebattre un petit peu les cartes et de voir si ce que j'avais tenté quand j'avais une vingtaine d'années, parce que j'avais démarré des études de philosophie en parallèle de l'école d'ingénieur. C'est ce qui expliquait à quoi ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, je me sentais pas forcément très très bien, et j'avais envie de voir qu'est-ce qui pouvait se passer dans ma vie si je reprenais cette voie-là, et si à 40 ans je me remettais à étudier la philosophie. L'autre raison, elle est quand même évidemment liée aux questions écologiques, aux questions de transition écologique et sociale, et j'avais le sentiment que par mon travail, même si j'avais pas une activité qui était foncièrement nuisible à l'environnement, faire des navettes de transport de personnes, c'est pas un problème si grave, mais j'avais pas le sentiment de contribuer de façon très efficace, et je trouvais que toute cette énergie que l'on mettait, parce que quand même l'équipe dans laquelle j'étais, je trouvais que les personnes étaient extrêmement brillantes, quoi. Toute cette intelligence, les gens qui se sont formés à tout ça, qui mettent autant d'énergie, de connaissances, ils mettent quelque part le meilleur d'eux-mêmes au service de quelque chose qui contribue pas très efficacement aux grands enjeux de notre temps. Et quand j'ai posé cette question-là sur la table très ouvertement dans l'entreprise, après avoir eu un moment un peu de burn-out, d'effondrement, moi je suis revenu en disant, bon, moi j'aurais besoin de mettre les choses au clair. Est-ce qu'on peut discuter carte sur table de la contribution effective de nos produits aux questions de transition écologique? Bon, la réponse qui m'a été faite était de dire c'est des vraies questions et c'est bien de te les poser, mais il se trouve que nos investisseurs ne se posent pas ces questions-là. Nos clients ne nous posent pas cette question-là de savoir est-ce que ces produits, vraiment, c'est des produits du futur, etc. Les autres employés n'ont pas l'air de se poser ces questions-là non plus. Donc, on m'a invité à aller me les poser ailleurs, chose que j'ai faite. Donc, voilà, en allant faire cette reprise d'études dans le domaine sciences humaines et sociales en mettant comme question de recherche la question de la technique, de ses déterminants sociaux, idéologiques, économiques, etc. Voilà, pour un parcours d'ingénierie avec une bifurcation assez radicale à un moment.
Ouais, une bifurcation, tu as donné le mot, effectivement, qui va structurer un peu la suite aussi de ce qu'on va se raconter. Ce que je note, ce que je trouve, ce que tu as bien mis en exergue, c'est derrière, effectivement, ces bifurcations, il y a souvent à la fois, évidemment, des trajectoires personnelles et des enjeux, des volontés personnelles. Tu faisais état de ton profil déjà un peu dual dès le début. Et puis, la prise en compte à un moment de questions sociétales, qui commencent à dépasser, en fait, en quelque sorte, les préoccupations du quotidien qu'on a. Tu le disais toi-même, évidemment, gagner sa vie, contribuer à quelque chose dans la société. Alors, moi, en fait, j'avais découvert ton parcours avant ton livre sur lequel on va arriver après, suite à un article donc que tu avais publié sur un blog dans Mediapart qui s'appelait Allons-nous continuer la recherche en robotique, et j'avais trouvé effectivement ta réflexion particulièrement structurée, au sens où un petit peu d'ailleurs comme tu viens de le dire là, tu posais, je trouvais, très bien des questions, ma foi, assez fondamentales et auxquelles j'ai l'impression on s'attache énormément dans notre société, justement à chercher à ne pas répondre. Alors je te relance un petit peu la main là-dessus, si t'as envie d'en dire un ou deux mots, sachant que voilà, tu es venu présenter ton travail notamment au sein du laboratoire de recherche en informatique et robotique ici à l'UTC, au laboratoire Odiasic. C'était vraiment chouette, je trouve, de leur part de t'inviter à venir parler de ça, et voilà, ça montre qu'il y a des choses qui bougent un petit peu partout sur le territoire. Mais voilà, encore une fois, pour te redonner la main, je trouve vraiment que tu avais très justement posé des questions auxquelles, je trouve, si on est un petit peu honnête, il est difficile finalement de ne pas répondre, quoi. Il serait difficile de ne pas répondre.
Merci pour cette relance sur ce texte-là, donc il s'intitule « Allons-nous continuer la recherche en robotique ?» C'est évidemment, j'aurais tendance à dire évidemment, parce qu'on est à l'UTC, qui a le COSTEC, donc c'est évidemment un clin d'œil à Grothendieck, une figure vraiment importante de la réflexivité extrême, si on peut dire, au sein des sciences. Donc ce mathématicien qui, à un moment, a arrêté toute activité de recherche parce qu'il trouvait que la finalité de son travail, notamment à des fins militaire, lui était insupportable, et par rapport aux enjeux notamment écologiques de son époque, était complètement décalé, et ça a donné naissance à un groupe qui s'appelait d'abord Survivre, puis Survivre et Vivre, voilà, qui sont des éléments fondateurs de l'écologie politique et de la réflexivité au sein du monde scientifique, de se dire comment est-ce que nos activités, elles contribuent à façonner le monde, et qu'est-ce qu'on fait de ça. Donc la non-neutralité absolue de la recherche scientifique. Ça pose ce postulat-là et ça vient le travailler. Donc c'est un texte, moi, que je considère un petit peu fondateur, hein, et qui peut être utilisé. Donc j'ai un peu joué avec ce titre-là en spécifiant qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans le domaine de la robotique. Je l'ai écrit parce que quand je fais des interventions orales, j'aime, contrairement à aujourd'hui, j'aime bien écrire ce que je vais dire, et puis c'est aussi l'occasion effectivement de structurer la pensée. Je me suis dit, donc j'étais invité par le GDR, le groupe de recherche robotique, a une journée d'éthique, de questionnement éthique sur la robotique. Et un ancien collègue de l'époque où je faisais de la robotique, parce que j'ai travaillé en entreprise, mais en collaboration étroite avec des laboratoires, ce qui m'avait amené à venir ici à l'UTC, travailler avec l'équipe d'IASI, comme tu l'avais dit, avec d'autres laboratoires en France, donc que je connaissais de cette époque et qui avait vu un peu mon parcours et les changements de trajectoire que j'avais pu faire, voilà, m'a invité en me laissant carte blanche. Et donc, c'est cette question-là que j'ai mis au travail. Et ce que je fais dans ce texte, Allons-nous continuer la recherche en robotique, c'est que j'énonce les arguments principalement invoqués par les roboticiens, qu'ils soient dans des laboratoires de recherche publique ou dans de la R&D, c'est-à-dire les collègues que j'ai eus pendant cette dizaine d'années dans des entreprises. Les arguments généralement invoqués pour justifier le fait qu'il faudrait encore de la recherche en robotique aujourd'hui, au regard de l'urgence écologique aussi, hein, c'est-à-dire sans nier ça, mais au contraire en disant il en faut parce que on en a particulièrement besoin aujourd'hui. Donc un peu les arguments mobilisés pour sauver la recherche en robotique. Et voilà, je les prends un par un, j'en énonce cinq et je les déconstruis, je les critique, hein, pour le dire plus simplement. Et l'argument essentiel, je pense qu'il peut être intéressant de creuser, c'est l'argument de la productivité, c'est-à-dire qui est mobilisé en disant... De manière générale, il y a une urgence écologique. Il faut vite transformer notre système technique, vite faire cette décarbonation. Le fait que notre dépendance aux énergies fossiles est insoutenable, donc il faut vite transformer ça. Pour faire cette transformation rapide du système technique, eh ben, il y a besoin de productivité. Il faut faire ça vite. Et donc, il va falloir vite produire des voitures électriques, vite produire des panneaux photovoltaïques, etc. Et pour ça, on a besoin de moyens robotisés, autonomes, pour accélérer la productivité. Voilà, je pense que c'est peut-être un peu l'argument clé, après qui se décline de différentes manières, mais qui est déconstruit et qui, comme je crois tu le disais, hein, est un impensé total au sein des laboratoires de robotique. C'est-à-dire que même si des personnes animées d'éléments de critique sociale, la critique du productivisme, la critique de l'industrialisme n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a toujours l'idée que, ouais, mais quand même, plus c'est efficace, mieux c'est. Plus on gagne en productivité, mieux c'est. Et il y a un impensé de trucs assez simples, hein, quand même, de se fixer des limites à l'efficacité, à la productivité. Ben, en fait, c'est nécessaire, des trucs qu'on retrouve dans la décroissance, ou très simplement posé chez Illich et la convivialité, le fait de dire que, ben, en fait, la quête de productivité, elle peut se retourner contre la société elle-même dès qu'on dépasse des seuils de contre-productivité.
Et même effectivement, c'est pas juste elle peut, c'est-à-dire que l'effet rebond qui commence à être pas mal théorisé aujourd'hui, hein. C'est, j'aime à le répéter avec un sourire, hein. C'est assez récent, puisque Jevons, il a énoncé ça au moment de la naissance de la machine à vapeur, hein, donc au 19e siècle. Donc en fait, ça fait quand même, voilà, quasiment 200 ans qu'on sait que les gains de productivité, eh bien, ils se retrouvent systématiquement, ou quasi systématiquement, dans de la surconsommation, dans du déploiement des technologies. Donc l'argument, enfin, que tu discutes sur la productivité des roboticiens, bien sûr, on va, grâce à ça, produire plus vite des trucs, mais qui eux-mêmes vont participer de l'accélération que l'on connaît, et donc produire les effets, etc. Alors évidemment, le futur n'est jamais certain, donc peut-être qu'à un moment, il se passera autre chose, mais enfin, pour le moment, c'est ce que l'on observe quasi systématiquement, et ça fait partie effectivement des choses que tu traites dans ce... dans cet article également, la non-neutralité dont tu as déjà parlé, hein, pareil, un autre système de défense, je pense, assez important des scientifiques et des ingénieurs, c'est de dire, nous on est neutre, hein, on invente des trucs, on construit des machins, ça dépend derrière ce que les gens en font. Et voilà, ça c'est pareil, c'est des choses qui sont, je pense, pas mal déconstruites aujourd'hui, et notamment à Costec. Est-ce qu'on fait une petite pause musicale et puis ensuite on passe à ton livre, est-ce que ça te convient ?
C'est parfait.
Et bah aujourd'hui, comme d'habitude, on est allé sur Zik Libre en Bib, ce super site de bibliothécaires qui répertorie des musiques sous licence libre, et donc on va écouter Speedwell Copanista de Solana. C'est sorti l'année dernière. C'est un groupe basé à Bristol et c'est en Creative Commons by SA. C'est parti, à tout à l'heure. Et de retour dans La Voix est libre, toujours avec donc Olivier Lefebvre qui vient discuter, qui a sorti récemment son livre « Lettres aux ingénieurs qui doutent ». Stéphane, Olivier, je vous rends la main.
Ouais, on va effectivement tout de suite rendre la main à Olivier. On a vu rapidement effectivement dans ton parcours qu'il y a cette question de questionner en fait. Question de questionner, super. Le pourquoi les ingénieurs ou les chercheurs font ce qu'ils font. Donc j'imagine que j'ai pas lu ton livre que je n'ai toujours pas reçu. Normalement je le commence ce soir si tout va bien. Je te laisse peut-être nous en dire deux, trois mots.
Ouais, je vais faire ça. Donc assez court. Hein. Je le présente ce soir à la librairie Quilombo là, et ça sera un peu la soirée de lancement parce que la librairie elle est liée à la maison d'édition à l'Échappée. Ce livre en fait il est né d'une question qui s'est imposée à moi dès lors que je suis sorti de l'ingénierie, dès lors que j'ai un peu effectué cette bifurcation, désertion, selon comment on dit. C'est-à-dire que généralement, quand on s'intéresse au phénomène qu'on appelle les ingénieurs déserteurs, la question première, c'est d'aller voir les personnes qui ont changé comme ça, mis une inflexion radicale dans leur parcours. En leur demandant, ça a été quoi la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ? Là, j'en ai pas parlé, pas forcément dit, et j'ai pas forcément envie d'en parler. Mais c'est pas par pudeur ou quoi. Mais il me semble que c'est pas la question la plus intéressante. Et je vais l'expliquer en je dirais il y a trois idées importantes dans ce livre et puis après il a fallu étoffer un petit peu pour en faire un livre objet, mais en gros voilà pour le résumé, je dirais qu'il y a trois idées principales. Une qui est relativement classique mais qui mérite d'être énoncée et reprécisée et qui justifie d'en faire un livre, et deux autres idées qui sont un petit peu plus originales. La première, c'est que c'est la question de tous ces ingénieurs qui doutent, ces ingénieurs qui sont en dissonance cognitive. C'est une hypothèse, mais basée sur un travail de terrain assez important que j'ai mené pendant plus d'une quinzaine d'années au milieu des ingénieurs, comme une espèce d'enquête socio-anthropologique dans leur milieu. J'ai fait leurs études, je les ai eus en tant que collègues, en tant qu'amis, j'ai fait leur métier, etc. Donc ils donnent un certain point de vue sur la question, et il me semble qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont en dissonance cognitive. Parce qu'ils ont conscience que par leur travail, ils contribuent à façonner le monde d'une façon qui ne correspond pas à leurs valeurs et qui ne correspond pas à ce dont la société aurait besoin aujourd'hui. Et pourtant, ils ne bougent pas. Ils restent là. Et je pense que d'un point de vue politique, il serait extrêmement souhaitable que ces personnes cessent de nuire. Hein, elles arrêtent de se faire du mal. Et elles, déjà, on ne sait pas trop ce qu'elles pourraient faire de bénéfique, mais au moins qu'elles arrêtent d'avoir une activité qui soit nuisible. Donc ça, c'est un point de départ que je précise un petit peu dans le livre. Le phénomène de dissonance cognitive chez les ingénieurs lié à la conscience de nuire et donc l'importance de cesser de nuire. Primum non nocere. Ça serait déjà pas mal. Et l'idée un petit peu classique, mais qui est reprécisée. Et les deux autres idées qui sont développées, tout d'abord de dire que cette question de pourquoi certains désertent, c'est pas la question qui politiquement va nous être utile pour amplifier ce mouvement, et il me semble désirable de l'amplifier, d'inviter les gens qui se posent des questions dans leur travail à effectivement cesser de se faire du mal. Et ça sera très utile politiquement. Et pour essayer de comprendre ça, c'est pas, donc pas l'angle de quelle est la goutte d'eau qui, chez quelques personnes, fait qu'il y a une bifurcation. C'est pas ça la bonne question. Pour moi, c'est plutôt essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas plus d'ingénieurs qui désertent. Et c'était d'ailleurs le titre initial de l'article que j'avais commencé à élaborer, parce que cette question, elle s'imposait à moi. Comment ça se fait que les gens toutes ces personnes qui m'expriment leur dissonance cognitive, comment ça se fait qu'elles ne changent pas de poste alors qu'elles sont dans des conditions économiques et financières plutôt et culturelles tout à fait favorables pour ça. Et donc, c'est cette question que j'ai un peu mis au travail. Donc, une des idées importantes du livre, c'est qu'il vaut mieux prendre la question contraposée, pourquoi ils ne désertent pas, plutôt que pourquoi certains désertent. Et la deuxième idée que je développe, qui est, à un moment, j'ai eu le sentiment de trouver un élément d'explication qui était assez important, que je n'avais pas vu écrit ailleurs, et donc il me paraissait important de le partager. Alors, quand on se pose cette question-là, pourquoi les gens ne désertent pas, la réponse qui est spontanément donnée, c'est de dire, en fait, il y a un certain confort matériel, et puis il y aurait comme un statut social associé à l'ingénieur qui est valorisé, etc. Alors, moi, je ne balaye pas ces arguments-là directement d'un revers de la main. Il y a évidemment beaucoup de vrai dedans, mais j'ai l'impression que ces arguments, ils servent de paravent à des raisons qui sont plus complexes, et sans doute un peu moins avouable chez les ingénieurs. Et puis, le fait que tout le monde pense que c'est ça, les vraies raisons, en fait, ça arrange tout le monde. Ça rentre dans des cadres de compréhension très classiques. Et voilà, c'est pour ça. Et moi, j'ai une explication qui est un peu différente et qui est venue de la lecture, non pas de la servitude volontaire de la Boétie, mais d'une préface, d'une édition qui était préfacée par le psychanalyste, philosophe Miguel Benassayag et qui raconte à l'intérieur de ce court texte une petite anecdote où il explique que si on fait grandir un ours dans une cage, en fait, l'ours, en grandissant, il va s'identifier à sa cage. Et son identité, ça va devenir, il sera l'ours dans la cage. Et si à un moment, on ouvre la porte de la cage, mais l'ours, il va pas sortir. Parce que ça serait comme une déchirure, une rupture de son individualité, de ce qu'il est, de sa personnalité. Et en lisant ça, je me suis dit, c'est un petit peu ça quand même la vraie raison qui fait que les gens ne désertent pas alors qu'ils m'expriment ce mal-être, etc. Alors que, objectivement, leurs conditions financières font qu'ils sont quasiment plus ou moins rentiers et tout. C'est qu'il y a, on pourrait appeler ça, je sais que Frédéric Lordon appelle ça une espèce de un consentement heureux, une forme d'obéissance heureuse. Moi, j'appellerais ça un goût de la soumission. Qui est développé. Et pour le dire très rapidement, voilà, l'argument qui est pour moi un peu l'idée principale développée dans le livre, c'est que ce goût de la soumission, il prend la forme cela est valable au-delà de la seule catégorie sociale des ingénieurs, d'une espèce de pacte qui est fait en disant, vous aurez une vie bien tranquille si vous ne faites pas trop de vagues. On va vous offrir une cage dorée, parce qu'effectivement, quelque chose de l'ingénieur, il est comme l'ours dans sa cage, mais avec une cage qui est effectivement tout à fait confortable. Et par contre, il ne faudra pas poser trop la question du pourquoi. Vous êtes là pour le comment. Une forme de soumission à l'ordre établi. Et ça, donc, ça prendrait forme particulière. Vous connaissez sans doute un peu ces classiques de la classe de loisirs contemporaine qui voit son existence un peu déterminée par deux dimensions, la dimension du travail d'un côté, la dimension du loisir de l'autre. Et l'ingénieur, en particulier avec sa pensée ingénieur très rationalisante, très dans un calcul d'optimalité, il va chercher à optimiser sa trajectoire dans ce jeu-là, avec un travail mi-aliénant, mi-appénouissant, mais qui va lui garantir le maximum de loisirs. Et ça serait ça, c'est la liberté dans la cage dorée. Donc il y a une redéfinition de la liberté, et cette liberté-là, dans la cage dorée, sa condition, c'est la soumission. Et donc pour être libre, il faut se soumettre. Et alors une fois qu'on a fait ce renversement, là on est complètement prisonnier, c'est une redéfinition de ce qu'est la liberté. Et donc voilà, pour moi c'est un des éléments majeurs et pas trop creusé qui mérite d'être mis à jour, parce que ça peut venir résonner avec des personnes et les amener effectivement à, et c'est le cas, ce texte-là il a déjà été lu même avant d'être publié, et ça a résonné avec des personnes soit qui avaient bifurqué, soit qui se posaient beaucoup de questions mais qui n'arrivaient pas à franchir le pas. Et cet élément de la servitude volontaire un peu spécifique chez l'ingénieur semble résonner chez les personnes.
Et non, donc Quentin, tu me regardes, donc moi je pensais que tu allais poser une question, mais j'en ai une, et sinon, en tant qu'à ta contenance.
Ah bah écoute, comme tu veux.
Allez, allez à toi, alors comme ça
on, on fait un pierre feuille ciseaux, allez, c'est parti. Oui, bah du coup, ça résonne un petit peu ces questions avec un événement qu'il y a eu à l'UTC la semaine dernière, le Festival des Ingénieries Souhaitables, où il y avait pas mal d'anciens et d'étudiants, étudiantes qui se posaient justement la question de la bifurcation, mais même plus profondément, la question de la fin des ingénieurs. Et en particulier, en imaginant... une époque, enfin une société où on a un peu répondu aux enjeux de l'époque, où on a des échelles plus modestes, des décisions démocratiques sur les enjeux socio-techniques, une technique qui est plus conviviale. En gros, est-ce que avoir des ingénieurs dans une société plus souhaitable, donc au sens de justement mise en équation du monde, travail de l'optimalité, ça a encore du sens? Par exemple, est-ce qu'on se dit pour faire des low-tech, il faut absolument de l'ingénierie et des gens spécialisés là-dedans? Ou bien est-ce qu'on peut se dire que les artisans, ouvriers et autres citoyens, citoyennes se seront réappropriés les techniques et on n'en aura plus besoin? Je sais que ça faisait vachement de débats, par exemple, toutes les questions autour des hôpitaux ou des usines pour faire de l'aluminium ou que sais-je. Est-ce que c'est des questions que tu t'es un petit peu posées? Est-ce que tu as des billes?
Ouais, merci pour ça. Effectivement, là, c'est un peu la question des ouvertures derrière, une fois qu'on a fait ce constat-là et qu'on se dit que politiquement, il serait extrêmement désirable que les gens cessent de se faire du mal et désertent les jobs nuisibles. Comment est-ce que politiquement on met ça en œuvre? Et puis, pourquoi faire? Et qu'est-ce qu'on fait de la question technique derrière? Est-ce qu'on la désinvestit totalement? Alors, je vais me permettre de ne pas répondre directement à ta question qui envisage ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle parfois une société post-croissance, hein, c'est-à-dire une fois qu'on aurait atteint un régime un peu soutenable, que faire? Comment est-ce qu'on traite la question technique? Voilà, ce genre de questions un petit peu de préfiguration, c'est pas celle que je me pose, je suis plus dans le ici et maintenant, et ici et maintenant on n'a pas de démocratie technique, et ici et maintenant on a un système technique dont on est absolument dépendant et qui n'est pas soutenable, donc voilà, on a plein de choses à faire avec la question technique pour s'en défaire, se défaire de ses dépendances et en renouer des nouvelles à des choses qui soient effectivement soutenables. Et comment faire ça? Ben, moi, je pense que c'est important de désinvestir certains secteurs, que ça a du sens, que des ingés ils quittent Airbus, ça a du sens. Je sais que ça met Airbus en difficulté, donc je pense que ça participe quand même d'une décroissance du trafic aérien, etc. Ça participe des transformations socio-techniques. Hein, quelqu'un qui ne veut pas faire un travail, c'est du social. Hein, et ça va avoir un effet technique, parce que la technique, elle va mettre plus de temps à advenir, même à une échelle macroscopique, mondiale. Voilà, je pense que ça a du sens de désinvestir ce qui ne doit pas être fait et de chercher à investir ce qui doit l'être. Et alors là, se pose un peu la question qui recoupe des questions plus de stratégie politique. À quelles échelles est-ce qu'il faut agir? Est-ce qu'on cherche à agir à des échelles macroscopiques et donc à faire advenir du low-tech, donc des technologies durables, appropriables, etc., par des voies étatiques? Ou est-ce qu'on fait plus des approches par les alternatives, des voies interstitielles, et en imaginant qu'elles puissent faire tâche d'huile, etc.? Bon, mais ça, moi, j'ai pas de vision extrêmement claire là-dessus. Pour moi, c'est des questions de recherche à proprement parler et qu'on peut traiter dans le cadre académique et se poser la question de c'est quoi les bonnes stratégies. Je pense qu'il y en a plusieurs qu'on peut mettre en œuvre, essayer de combiner des choses plus symbiotiques avec les institutions existantes et puis des choses plus en rupture et qui inventent des alternatives. Et je trouve aussi peut-être qu'il serait intéressant d'investir des choses qui soient intermédiaires, un peu à des échelles méso, où on pense les low-tech non pas juste comme un bricolage et ça permet aux gens de se réapproprier la question technique, etc. Et tout. J'avoue avoir été un peu, je dirais, dès le début, lassé de cette vision-là, quoi. C'est un peu comme l'agriculture urbaine ou quelques oxymores, quoi. On ne va pas changer un système socio-technique par du bricolage chacun dans son coin. Et la réappropriation, c'est important au niveau des individus, mais ce qu'on cherche à faire, c'est quand même changer la société. Donc il faut monter un peu en échelle. en se prémunissant du productivisme, de l'industrialisme un peu qu'on abordait au début. Et donc là, il y a tout un jeu qui est extrêmement complexe pour pas que ces objets techniques qui nous seraient nécessaires pour donc enclencher des trajectoires comme ça où on va se désincarcérer d'un système dont on est dépendant. On a besoin, dans le domaine de la mobilité, de ces fameux véhicules intermédiaires quoi, entre le vélo et la voiture. On peut pas juste critiquer la voiture et attendre que paf, quelque chose advienne et tombe du ciel. Et ça m'ennuierait d'attendre que ce soit Renault qui se saisisse du sujet. Parce que Renault, il va être pris dans des logiques qui ne sont pas celles des sociétés conviviales. Hein, et ils vont pouvoir nous faire des objets qui répondront à un cahier des charges low-tech, éventuellement. Mais ils vont être pris par des logiques de marché, des logiques de productivisme. Et on risque de voir advenir, des objets, des véhicules low-tech un peu sympas, mais sponsorisés par je ne sais pas quoi, enfin, qui vont être. Voilà, si on a conscience que les logiques de marché ne doivent pas être ce qui pilote l'innovation technologique, eh bien, il faut se ressaisir collectivement de ça. Donc, c'est essayer de trouver ces méso-échelles. Et pour moi, voilà, c'est des voies de recherche aujourd'hui. Et je pense que c'est des voies extrêmement intéressantes pour tous ces ingénieurs bifurqueurs qui, contrairement à moi, ont un vrai goût pour la technique. Moi, voilà, j'étais quand même aussi content de quitter l'ingénierie pour aller faire un peu plus de sciences humaines et sociales, pour prendre le temps d'écrire un livre pour donner des cours sur ces sujets-là, etc. Mais j'en connais beaucoup qui ont un vrai goût pour la technique. Et je pense que ces voies, entre le bricolage et une industrie qui imaginerait se réinventer, parce que le terme low-tech a déjà été approprié par de grandes entreprises, ben, entre les deux, je pense qu'il y a des voies très intéressantes pour nos fameux ingénieurs qui doutent.
Ouais, tout à fait. Bah, écoute, merci beaucoup. On a déjà cité à plusieurs reprises hein, dans des émissions, notamment dans le domaine du numérique, les licornes, par exemple. Hein, qui sont des sociétés, des entreprises coopératives, donc qui à la fois travaillent sur le passage à l'échelle, comme tu le dis, c'est important. Hein, c'est pas juste bricoler dans son garage. Donc, et en même temps à d'autres échelles et avec des enjeux. Encore une fois, derrière des coopératives qui sont différentes. Bien sûr, on a déjà parlé d'associations comme Framasoft, avec encore d'autres modèles là qui sont vraiment non marchand. Ça va un petit peu dans le sens de tout ce que tu me donnes, même si c'est des tout petits exemples et que c'est dans le domaine du numérique où c'est beaucoup plus facile que dans d'autres domaines industriels comme ceux que tu as cités, bien sûr, mais voilà, il y a au moins des touches, des choses qui bougent. On arrive peut-être au terme de notre émission. Moi, je voulais juste te demander ton avis, parce que c'est une lettre aux ingénieurs qui doutent, mais j'ai l'impression, en entendant ton discours, qu'on peut aussi l'utiliser pour le donner à des ingénieurs qui doutent pas encore, non? ou tu penses que... c'est une vraie fausse question, c'est-à-dire ouais. Bon, j'imagine que plus on va pouvoir en distribuer, mieux ça ira pour toi, et que de toute façon transférer le discours ira bien. Mais est-ce que le niveau vraiment d'accroche que tu as adopté, il est déjà pour des gens sensibilisés, et en fait pour les autres, il risque de pas rentrer ou...
A priori, je m'adresse aux ingénieurs qui sont en dissonance cognitive. Okay. Mais mon hypothèse est qu'ils sont...
Et c'est qu'ils sont tous
très, très nombreux. Voilà.
Ok. Eh bien, écoute, ça me paraît une très bonne cause. Donc, à réserver aux ingénieurs qui doutent, mais si vous êtes un ingénieur qui ne doutait pas, eh bien, peut-être on pourra vous recevoir dans l'émission, vous êtes un minoritaire.
Bon, ben merci beaucoup Olivier et merci Steph pour cette émission préparée en 2-2 comme on dit. Vous pouvez retrouver cette émission donc sur radio.picassoft.net quelques temps après sa diffusion, et puis sinon bonne journée à toutes et tous et à une prochaine, salut.